Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Pour commencer l'année en beauté, nous vous proposons de partir à l'aventure, de larguer les amarres et d'explorer les océans en compagnie de Florence Artaud. Celle qu'on appelait la petite fiancée de l'Atlantique était en fait bien plus que cela. À travers sa fougue, son travail, son courage, elle a réussi à dompter l'océan et à inscrire son nom au panthéon de la voile. Ses victoires et ses records ont été enviés par les marins de sa génération et ont ouvert la voie à d'autres femmes, à d'autres championnes. Je vous propose que nous revenions ensemble aujourd'hui avec mes petits camarades sur le destin époustouflant et tragique de Florence Artaud. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bonjour Younes.
Salut à tous.
Bonjour Olivier.
Salut.
Et bonjour Thibaut.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous retrouver. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un petit extrait. C'est une autre femme marin qui parle, Isabelle Autissier. Et c'est elle qui nous raconte Florence Artaud pour commencer.
Ah, Isabelle.
L'image que j'en ai eue d'abord, c'est de la fille qui se bat.
Isabelle Autissier.
C'est vrai qu'elle a peut-être eu un accès qui a été favorisé par les relations dans sa famille, ou etc. Mais il fallait qu'elle y aille. Et elle y est allée, encore une fois, avec une énergie quand même extraordinaire. Donc voilà, donc moi, c'est quand même, d'ailleurs, c'est l'image que je garde d'elle. Cette espèce de, pour moi, c'est vraiment cette énergie intérieure qu'elle avait et qu'elle a toujours montrée, aussi bien sur un bateau que dans le reste de sa vie, quoi. Et après, bien sûr, moi, j'ai été complètement marquée par sa victoire dans la Route du Rhum. C'était quand même ce que toutes les filles dans le milieu de la voile attendaient un jour, que ça se passe. Mais on ne savait pas quand, et on voyait que Florence était sans doute celle qui avait le plus de chance d'y arriver, pour ce qu'elle était en tant que marin, et puis parce que elle avait accès à des bateaux qui lui permettent d'être dans la compétition à plus haut niveau. Mais c'était pas écrit. Hein.
Vous avez entendu donc Isabelle Autissier nous parler de Florence Artaud.
Élogieuse.
Élogieuse, bien sûr. Mmh. Et pour commencer, je vais me tourner d'abord vers toi, Younes. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que t'évoque le nom de Florence Artaud ?
Une héroïne.
Oh,
vraiment, j'en avais plein les yeux quand elle est arrivée et à la télévision, c'est un peu le truc en grande pompe qu'on avait au JT. Et puis,
toi, tu l'avais en direct dans ta maison de vacances, non?
Oui,
à Saint-Malo,
avec mes enfants, au coin du feu. Et quelqu'un, qui force l'admiration, forcément. Et puis derrière, après, forcément, en préparant le sujet, on tombe amoureux. Puis on est en colère pour plein de raisons, hein, pas seulement pour ce que l'on sait, mais voilà.
Tu es très mystérieux, Younes.
Oui, tout à fait.
Thibaut.
On garde le meilleur.
Alors moi, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu bateau.
Wow. Allez,
Olivier est trop
vénère. Très
vexé. Il est trop vénère. Je lui ai piqué sa blague.
Allez, comme quoi, il ne fait pas de vagues, mais il y va. Hein.
Non, mais Olivier, il est imbattable.
Non, mais en fait, c'est vraiment la femme libre dans un sport d'homme. Mais ce n'est même pas dans un sport d'homme, en fait. C'est dans une discipline dans laquelle on n'attend pas de femmes du tout. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que la voile n'est pas un sport macho. Mais comme si on avait toujours pensé que ce n'était pas fait pour les femmes, et par bêtise hein, d'ailleurs. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel, d'irrationnel dans tout ce qu'elle a fait dans toute sa carrière. Donc, et puis la mort que tu as rapidement évoquée, qui est tellement bête et tellement triste pour le personnage libre qu'elle était. Donc, voilà, en quelques mots.
Chloé.
Alors moi je connaissais pas du tout Florence Artaud, je connaissais le nom évidemment mais j'avais jamais suivi, je viens pas du tout d'une famille qui s'intéresse à tous les sports nautiques ou de voile et en travaillant le sujet j'ai été bouleversée, ça va être un sujet très dur pour moi parce que c'est genre la femme que j'aurais rêvé d'être et je trouve ça horrible de la découvrir si peu de temps après qu'elle soit partie donc je suis un peu bouleversée mais ça va être cool. Ah. On va s'en sortir.
Et toi oui. Olivier ?
Moi j'ai adoré Florence Artaud, je la connaissais peu. Non, mais pour le coup, je vais faire peu de blagues. Ce serait cette partie-là, je vais me rattraper après.
Merci, on est venu
pour
ça.
J'ai adoré cette femme qui combat tout le temps, qui combat la vie, qui combat la mort, qui combat pour la liberté et pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé tous ces témoignages. Vraiment, j'ai dépassé un peu le cadre de la préparation du sujet. Voilà, elle m'a beaucoup touché. Et puis voilà.
Bon, arrêtez tout ça, vous allez nous faire chialer là.
Grave.
Et toi, Sarah ?
Et toi, Sarah, oui.
Eh ben, moi, je connaissais assez peu hein, Florence Artaud. Finalement, malheureusement, c'est vrai que moi, elle m'a marquée surtout par sa mort et les circonstances de sa mort. Et donc, d'avoir l'occasion, grâce à EPO, de se replonger vraiment dans son histoire et de découvrir un peu le personnage, je trouve ça tout à fait fascinant. Et je comprends un peu ce que tu veux dire, Chloé, ce côté un peu d'admiration. De faire des choses qui sont absolument incroyables, des exploits. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais franchement, moi, une des phrases qui m'a le plus marquée, c'est quand elle dit « Bon, j'ai dormi deux fois une demi-heure en cinq jours, mais bon, tout le monde peut le faire. »
Ouais, c'est assez fascinant, ça. On en reparlera tout à l'heure.
Ça, moi, je le fais toutes les semaines.
Hein. Je vous propose qu'on essaye tous ensemble.
Tout le monde ne peut pas le faire, hein, parce que ton état, excuse-moi, que aujourd'hui...
Je suis ravagée.
C'est ça.
Donnez-moi de l'eau.
Pose cette seringue.
Donc voilà, donc, le personnage me fascine, mais en vrai, je crois que ça va au-delà de ça, genre cette discipline de traverser les océans en solitaire, je trouve ça absolument mais fascinant et
oui.
J'aimerais pas du tout le faire, mais
j'aimerais tellement le faire.
Je trouve ça fascinant. Bah,
déjà, t'as du mal à traverser ta route en trottinette, donc excuse-moi. Mais...
Tout à fait.
Bah, une fois, moi, j'ai traversé la...
Oui, t'as traversé quoi?
Le passage clouté, ouais, j'ai eu très peur.
Boulevard Voltaire, ouais, non.
Au rouge.
Ouais, boulevard Voltaire, ouais, c'était au rouge, c'était un peu chaud.
Bon, allez, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on raconte un peu Florence Artaud en commençant par sa jeunesse et les débuts de sa carrière. Raconter un peu finalement ce qui a fait d'elle un marin, parce que bon, il y avait des petits signes avant-coureurs, mais c'était pas sûr non plus qu'elle
c'était
allait se tourner
tout.
Vers cette voie-là.
Alors oui, moi, je vais commencer par le début. Donc Florence Artaud, elle est née le 28 octobre 1957 à Boulogne-Billancourt. Et vous connaissez toujours ma petite passion pour l'astrologie.
Oui.
Donc j'ai fait le thème astral de Florence Artaud. Et comme tu disais, il y avait des choses qui venaient de loin. Et dans son thème astral, il y avait des choses qui étaient déjà écrites au moment de sa naissance. On commence avec un soleil en scorpion qui nous dépeint une femme forte et pleine de bravoure. Ses passions sont fortes, mais aussi par sa lune en capricorne, craintive, taciturne, réservée. Peu d'amis, mais ceux qui la connaissent l'aident à atteindre le succès. Attention, problème financier par contre. Ouais. Mercure en scorpion nous indique qu'elle est maligne et trouve toujours des solutions aux problèmes. Vénus en sagittaire représente quelqu'un avec un grand cœur, bienfaisante, mais surtout consommée par son goût de l'aventure, du risque et de l'imprévu.
Eh oui.
Ah, un vrai marin.
Jupiter en balance, c'est une bonne vivante, sympathique, mais elle peut avoir des ennuis car elle se laisse entraîner dans des situations douteuses, souvent par excès de confiance en plus.
C'est l'ascendant poisson, ça.
Selon Uranus en lion, elle est entière, résolue, tenace. Elle aime sa liberté d'entreprise et son indépendance. Donc de manière générale, c'est une personne indépendante, passionnée, avec un certain goût du risque et une confiance aveugle en ceux qui l'entourent.
Ah oui. C'est beau. Et donc, oui, comme tu l'as dit, donc elle est née à Boulogne-Billancourt et elle va grandir donc, dans une famille plutôt bourgeoise.
Oui, dans le 16e arrondissement.
Dans le 16e arrondissement de la ville de Paris, oui.
Elle est la fille d'un éditeur.
Oui, Jacques
Artaud, qui a une maison d'édition à Grenoble, je crois.
Oui.
Qui a une thématique un peu de l'aventure, un peu comme les éditions Glénat, en fait, qui ont émis toute une branche en fait, dédiée aux explorateurs. Et là, c'est un peu le cas. Du coup, elle baigne un peu dans le milieu.
Ouais, elle baigne dans les grands récits. Sont notamment édités dans cette maison d'édition les récits de Bernard Moitessier, qui était un immense navigateur à l'époque, qui faisait beaucoup d'aventures pour le coup et moins de courses. Et aussi d'un de ses modèles.
L'un de ses mentors aussi, oui.
Éric Tabarly.
Éric Tabarly, ouais, le célèbre.
Et donc, c'est un peu grâce à son père aussi qu'elle va commencer à prendre le goût de la mer. Et je crois qu'elle navigue très jeune avec son frère aussi.
Oui, Jean-Marie.
Jean-Marie. JM.
Une personne très importante dans sa vie, on le verra après. Ouais.
Oui, une personne très importante. Voilà, elle le fait notamment au club de voile d'Antibes.
Très belle région.
Et il y a un petit peu quelque chose qui va tout d'un coup faire basculer la chose.
À ce moment-là,
il y a un événement marquant en 1974.
Elle a un grave accident, ouais, c'est ça.
Tu peux nous en dire un peu plus.
Elle va vivre un très grave accident de voiture. 7 tonneaux, hein, c'est écrit sur ma fiche. Hein, c'est pas 8, 7 tonneaux. Elle va rester dans le coma pendant plusieurs mois. Elle sera défigurée. Et elle mettra 2 ans à se rétablir complètement de cet accident. Alors, est-ce qu'on peut voir là-dedans la force mentale dont elle va faire preuve ensuite
dans toute
sa vie? C'est une vraie question. On ne sait jamais où est la poule là-dedans, mais sûrement. Mmh. Ouais,
mais ce qu'on en sait, effectivement, c'est que c'est un événement qui forcément est dramatique. mais dans lequel elle va se forger un caractère et une personnalité bien authentique et bien propre à elle, en fait.
Dans cette interview, elle le voit assez peu comme un drame, en fait. C'est assez drôle parce qu'elle dit oui, bah oui. Alors du coup, pendant 2 ans, tout le monde me cédait un peu à mes caprices parce que sinon, je risquais d'être bloquée, des choses comme ça.
Ce que je vous propose, justement, c'est d'écouter les quelques mots de Florence Artaud qui revient sur cet accident.
Merci.
Ça a été ma chance, finalement, cet accident. Ça m'a permis de me sortir un petit peu de mon milieu et puis de ce qui m'était destiné. Parce qu'à cette époque-là...
Ça vous a filé la rage, l'accident ?
Non, mais en fait, ça a été une période de 2 ans de convalescence où on m'a passé tous mes caprices parce qu'il fallait surtout pas me contredire, sinon je risquais de rester un peu coincée. Et en fait, j'avais le droit de rien faire, ni au niveau des études parce que j'étais pas très vive intellectuellement, et ni au niveau sportif, à part du bateau. On m'a autorisé à faire du bateau, donc je suis partie traverser l'Atlantique, et ensuite j'ai fait ma...
Après, vous avez appris le métier à Antibes avec Marc Linsky, vous étiez à l'école de voile.
Oui,
et vous dites en parlant de cette époque, parfois j'allais me cacher pour pleurer. C'était dur, cet apprentissage?
Ah oui, bah, de toute façon, être mousse, c'est toujours difficile. Ouais. Hein, quand on est mousse, on fait tous les sales boulots et on n'a aucune récompense, mais c'est comme ça que le métier rentre.
Ouais. Alors, pendant cette convalescence, il y a 2 personnes qui vont la marquer.
Thierry Ardisson.
tout à fait.
Nelson Montfort. Et Dan King.
Un père jésuite.
Ouais. Michel Jaouin. En fait, c'est un père jésuite, effectivement, qui s'est dédié un petit peu au sein d'une association qui s'appelle Bel Espoir. Il reprend en main des jeunes en grande difficulté, délinquants, parfois grands délinquants, et d'autres personnes aussi, qui ne sont pas forcément en difficulté sociale, mais plutôt en difficulté de vie. Et ils passent leur journée à retaper des voiliers. Voilà. Donc, ils mettent en œuvre la reconstruction de vieux voiliers, quelque part est un peu une métaphore dans l'état un peu dans lequel ils arrivent au départ. Oh,
c'est beau. Oh,
c'est beau, c'est magnifique.
Oui, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Exactement.
Et un autre marin.
Jean-Claude Paris.
Exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble?
Eh ben, lui voudra qu'il fasse la chose. Hein.
C'est oui, bah lui, pour ça.
On n'en sait rien.
C'est
Olivier.
D'ailleurs pour ça. Elle le dit assez bien. Elle dit qu'à 18 ans, elle était en train de boire un coup, qu'il y a ce Jean-Claude Paris là, donc qui a envie de lui dire, hey, Florence, viens
sur un coup de drague,
viens par ici, et
chevaucher ma vague,
et qui lui dit, en gros, avec les yeux pleins de désir, c'est ce que dit Florence Artaud dans son témoignage.
Tout à fait.
Que est-ce que ça vous dit, mademoiselle, de traverser l'Atlantique avec moi? Et là, elle hésite à peu près un quart de seconde.
Ouais.
Elle dit oui. Et c'est parti, elle fait son premier tour d'Atlantique avec ce skipper.
Ouais.
Et c'est un véritable déclic pour elle. Elle découvre les journées rythmées par les couchers de soleil ou les levées de la lune.
La courbe de l'horizon. Oh, tu m'excites, Olivier.
De la lune et du soleil sur la marée.
C'est un peu métaphorique tout non?
Tout à fait.
Bref, elle se sent libre, elle se sent légère. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui dit aussi qu'il n'y a pas meilleure sensation, peut-être à part l'amour, que d'être sur son bateau libre. Voilà, donc c'est grâce à cet homme qu'elle rentre vraiment de plein pied, qu'elle fait son premier trajet. Et à 18 ans, ça devient un peu la chouchoute, mine de rien, un petit peu des autres marins. Donc on imagine un peu les marins ultra bourrus qui la prennent un peu
j'ai eu peur.
Quoi.
Oui.
Voilà.
Alors au départ.
Au départ.
Au départ, oui.
Voilà.
Au départ, ils la prennent d'affection, effectivement.
Oui. Ils trouvent
le phénomène mignon et puis ils trouvent que c'est chouette, quoi.
Vas-y, Thibaut.
Tant qu'elle n'est pas dangereuse, en fait. Tant qu'elle est seulement une sorte de mascotte. Qu'elle est dangereuse pour personne.
Exactement.
Oui, pour l'instant, c'est le footix de la bande.
De la bande, ouais.
Non, et puis elle est mignonne. Et puis c'est un peu la fille à papa, quand même, à qui on donne le droit de faire de la voile. Ce qui ne va pas l'empêcher de prendre part à la première édition de la Route du Rhum qui a lieu en 1978. Si mes calculs sont bons.
Oui, c'est tes calculs et ta fiche est très bien, Sarah. C'est exactement ça. Route du Rhum 78. La première édition. Ouais. Où elle finit 11e, je crois, c'est ça? Je dis des bêtises?
Non, c'est exactement ça. Elle finit 11e. Elle a 20 ans.
Déjà, elle finit. Alors, il faut préciser que c'est quand même incroyable.
Non seulement elle finit, il faut dire que c'est l'une des plus jeunes. Il y a seulement le Benjamin qui est Yves Le Cornec. C'est la deuxième femme à s'inscrire.
Ouais.
Aline Marchand et son aînée. Et voilà, comme tu dis, elle est vraiment considérée comme, pour l'instant, la fille à papa, le papa qui a payé le bateau. qui s'appelle, c'est pas encore le Pierre Ier.
Pas encore.
C'est le, j'ai le nom quelque part, je voulais le dire, c'est l'expérimental. L'expérimental.
Toi aussi, c'est tu veux faire. Point périmental.
Toi aussi, tu veux faire des choses expérimentales avec moi.
Viens avec Jean-Claude.
Appelle le 08 412. Donc elle se classe 11e pour la petite histoire. C'est Mike Birch qui remporte cette édition. 98 secondes devant Malinowski.
Incroyable. Ah oui,
voilà.
Incroyable.
Sachant qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir des marins de plus en plus jeunes sur certaines courses, à 30, 35 ans. Mais à l'époque, une femme de 20 ans, c'est complètement délirant quand même.
Ouais, c'est là où elle rentre dans la cour des grands. C'est là où on va commencer à l'appeler la petite fiancée de l'Atlantique, le fameux surnom qui ne va pas la lâcher.
Qui ne va pas la lâcher, peut-être qu'il va peut-être la saouler aussi un petit peu, parce que c'est un peu un sobriquet. Et finalement, c'est un peu pour réduire le truc, alors que c'est quand même assez légal des autres.
Et puis il y a un truc un tout petit peu machiste dans la petite fiancée de l'Atlantique.
C'est... Ah bah carrément. Enfin moi je l'entends comme ça. Après peut-être que je suis.
Si c'est ce qu'on disait. Il y a un côté mascotte qui est assez sympa les premiers mois, mais qui à mon avis peut vite être très pesant aussi pour
quelqu'un. C'est Yann Kefelec, l'écrivain, qui disait qu'elle c'était pas la fiancée de la petite fiancée de l'Atlantique, mais plutôt l'amour des océans. Et j'ai trouvé ça plutôt joli.
Et donc cette première route du Rhum, elle sera notamment marquée. Par une
drame,
histoire
ouais.
qui restera tristement célèbre, donc c'est la disparition d'Alain Colas et de son trimaran Manu Reva.
Le célébrissime Manu Reva.
Le célébrissime Manu Reva, grâce à la chanson d'Alain Chamfort écrite
par Serge Gainsbourg.
Par Serge Gainsbourg, que je propose à Olivier de chanter
maintenant.
Manu Reva.
Ah ouais. Fantastique.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée.
Ce n'était pas prévu.
On voit pas la différence avec l'original. Moi, je sais plus.
Moi, je suis perdu là.
Portée disparue, Manu Reva. Elle me fait de la peine cette chanson.
Ouais.
Oui. Voilà.
Oui. Bah, surtout quand on connaît le contexte, oui.
Et oui. Et donc Florence Artaud finit sa première route du Rhum. Et je vous propose de l'écouter encore une fois nous raconter un peu son expérience.
J'ai souffert, mais jamais au point de regretter. Jamais, parce que regretter, de toute façon, ça sert à rien. J'ai toujours été jamais regretté. J'ai souffert, il y a des moments, j'ai vraiment eu envie de lever le pied, de laisser aller, d'aller dormir. Et je me disais à chaque fois, tu t'égares, tu t'écartes de ton chemin, il faut refoncer, tant pis, t'es crevé, il faut continuer, renvoie de la toile, fais ceci, cela. Et puis je repartais, ça ne durait jamais longtemps, hein, mais il y avait toujours, souvent, quand il y avait des trucs qui n'allaient pas, qui cassaient, qu'on faisait le maximum et puis qu'à côté on voyait que ça ne marchait pas. On a toujours des moments où on en a ras-le-bol. Moi à la fin, quand ça n'allait pas, j'étais sur mon pont, mais je gueulais, j'injuriais. C'était... Et puis après je me reprenais, j'agissais, on passait à l'action, on continuait. C'est-à-dire que en fait l'ambiance dans cette course, c'était... Il fallait penser à rien d'autre que la course, qu'au foncer. On a des ornières, on a un but à atteindre, c'est aller vite, toujours le plus vite possible, mener son bateau au maximum, quels que soient nos états d'âme, quelle que soit notre fatigue, notre santé, la forme physique, il faut penser qu'à ça. Il faut surtout pas se dire... on n'a pas le loisir d'abord de s'occuper à autre chose et on n'a pas le loisir non plus de penser à autre chose.
Oh, ça, c'est tout, Florence. Jamais se plaindre, y aller quoi qu'il arrive, et la vitesse.
Un caractère.
Vitesse. Tu l'as connu, Florence, d'ailleurs.
Oui.
Vous étiez bien potes, ouais, je me rappelle.
Ah, on s'est changé des billes et des pogs.
Des pogs.
À la cour de récré.
Et donc, elle ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va continuer à participer aux éditions suivantes de cette course qui devient vite mythique.
Mm-hmm. Elle participe en 82, elle se classe 20e, et en 86, elle finit 11e.
Voilà, et à chaque fois, première femme.
Et au cours du coup de sa troisième participation, donc le 14 novembre 86, elle se déroute pour porter assistance à Loïc Karadec, qui ne donne plus signe de vie. Elle retrouve son catamaran, le Royal, se retourner sans trace du marin, et elle est toute seule, donc elle ne peut pas plonger et abandonner son bateau pour le chercher.
Non, on peut dire en plus que, quelque part, elle lâche un peu la course. En fait, l'objectif est de porter secours, donc c'est quand même déjà...
Il y a tout ce côté grand cœur aussi.
Ouais, mais après, je pense que c'est quand même aussi général. Les marins, je pense qu'ils ont un peu ce rapport aussi solidaire. De fait, d'être un peu tous dans la même galère, je pense qu'effectivement, elle le fait comme n'importe qui, en fait. C'est aussi ça.
C'est un peu le paradoxe de cette discipline. C'est pour le coup des vieux loups de mer. Ils sont très solitaires, mais en même temps, il y a une solidarité dans cette discipline qui n'existe nulle part ailleurs.
Ça pourrait être une belle chance, hein. Les loups de mer Ils sont très solitaires.
Tu vas changer
de carrière. Je te sens inspiré.
Oui. Je le sors un disque. Hein. Soyez, je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux.
Magnifique.
On a 7 minutes de promo à la fin.
J'ai hâte.
Et peut-être dire quelques mots, parce que donc Florence Artaud commence à devenir une figure des maires et des magazines. Elle commence à devenir assez connue.
Oui.
À la fois pour ses performances sur la route du Rhum, mais aussi pour son caractère. Qui d'ailleurs lui permettra d'obtenir le voilier qui marquera sa carrière. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ça?
Ouais, alors son caractère, Florence, parce que je me souviens encore des calots qu'on s'est changés. elle fonctionne vraiment sur des coups de tête. C'est vraiment une femme passionnée qui marche vraiment à l'instinct. Et qui prend sans calculer ce qu'on lui offre, notamment sur des rencontres, ce qu'il joue parfois
quelques tours, hein,
notamment quand elle est sur Terre, hein, parce qu'elle a quand même moins les codes. Elle s'est toujours dit qu'elle avait moins les codes pour s'exprimer sur Terre, ce qui est un peu.
Après, c'est une discipline de précision, mine de rien, parce que ça quand même demande de la lecture de guides, des cartes, et puis des instruments de mesure. Et mine de rien,
un double décimètre par exemple.
Par exemple, oui. Tout à fait.
Le compas.
Le rapporteur.
Tout ça.
L'équerre.
Mais mine de rien, ce qui est vraiment quelque chose qui n'est pas fourni chez Carrefour, c'est l'instinct.
Et le caractère bien trempé.
Ça, il n'y a pas ça dans les rayons.
Non, ça, c'est.
On est d'accord.
Voilà. Et donc, le caractère bien trempé, elle l'a. Elle sait convaincre son la personne qu'elle a en face d'elle.
Et son interlocuteur.
Voilà, et c'est comme ça qu'elle va convaincre par l'entremise de son père, un promoteur immobilier, de lui financer la construction d'un grand trimaran. Alors ça, je la trouve très drôle, cette histoire.
Trimarante.
Oh non,
Chloé. Tu peux pas faire ce genre. Le pauvre, regarde, il est tout décontenancé.
Méchant.
Ah non, au contraire.
Non, il a changé de registre.
J'ai tendu la perche.
Je l'ai saisi.
Donc le trimaran, c'est quoi? C'est un bateau à trois coques. Chloé va nous faire la différence un petit peu. Je sens qu'elle a un petit encas sur le catamaran et trimaran.
Différence entre catamaran et trimaran, par Chloé.
Voilà.
Allez, vas-y, et on reviendra sur le bateau de Florence juste après.
Alors tout d'abord, je tiens à remercier Wikipédia pour son soutien sans faille. On va commencer par un catamaran du Tamoul Katumuran. J'ai essayé. Hein. Qui veut dire littéralement bois lié. Et c'est exactement ce qu'est un catamaran. Puisqu'il possède deux coques qui sont reliées l'une à l'autre de manière parallèle. Le catamaran
c'est comme le bois bandé.
Oui. Et non pas comme le pain complet, pour le coup.
Non.
Rien à voir.
Alors, je vais me remettre à flot. Le catamaran se classe donc dans la catégorie des bateaux multicoques, qui comprend également le trimaran, dont on va parler juste après. L'intérêt des multicoques est d'aller plus vite grâce à des coques plus fines qui vont diminuer la résistance de l'eau, d'augmenter la stabilité ou d'augmenter la surface du pont. Ils sont principalement utilisés en tant que voiliers de plaisance, comme des navires à passagers à vitesse normale ou élevée, ainsi que pour certains projets militaires. Et ça, c'est ouf, parce que j'ai découvert qu'il y avait des catamarans militaires. Je vais vous envoyer la photo.
Oui. Des furtifs.
C'est impressionnant et on les appelle des perce-vagues.
Ouais.
Voilà, on vous mettra peut-être des photos sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, petite parenthèse réseaux sociaux, à chaque fois on dit qu'on va vous mettre des trucs.
Ouais,
on va vraiment finir par vous mettre des trucs.
On va vraiment le faire cette fois-ci, voilà. Promis.
Et donc, en deux mots, le trimaran, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a trois coques.
Sauf qu'il y a trois, voilà.
Et qu'il est effectivement plus drôle.
Bon, on peut préciser quand même que deux des coques sont plutôt des flotteurs que des habitacles, en fait.
Exactement.
Voilà. Si vous avez tous vu ça après le JT.
Et donc.
On éteint.
Le bien nommé Christian Garrel, je sais pas pourquoi il est bien nommé, mais je trouve qu'il est bien nommé, finance donc la construction du trimaran Pierre Ier de Serbie.
C'est très chic.
Voilà, très chic. Et c'est avec lui qu'elle va gagner la route du Rhum, qu'elle va battre un autre record, nous verrons ça après, et qu'elle va lui accorder toute sa confiance finalement à Pierre Ier.
Oui, et peut-être dire juste un mot, parce que je suis pas sûre qu'on y revienne dessus après, mais c'est que, malheureusement, Pierre Ier va lui servir assez peu de temps. Oui. Puisque finalement, il n'est pas taillé pour battre de grands records. Il va se démoder assez rapidement. Mmh. Et le trimaran passera entre les mains de divers hommes très riches, d'aventuriers des temps modernes.
Il va faire une carrière au cinéma.
Il fera exactement. Alors... Enfin, sa réplique a servi pour le tournage de...
Waterworld. C'est dingue.
C'est fou, ça.
Mon film favori. Oh là là. Tu veux dire que quand il fait pipi et que ça devient de l'eau, pour la boire, c'est sur la réplique du Pierre Ier.
Exactement.
Le Mad Max des eaux. C'est dingue.
Et donc, elle a déjà une vraie personnalité, mais ce n'est pas encore une héroïne. Et ça lui permettra d'ailleurs de faire un petit écart à sa carrière de marin pour se lancer dans la chanson en 1989, hein, puisqu'elle va participer au disque « Quelque part, c'est toujours ailleurs » de Pierre Bachelet. Mais revenons aux choses sérieuses.
À nos moutons.
Exactement. Florence Artaud a déjà participé 3 fois à la Route du Rhum. Quand l'année 1990 arrive, et avant de parler de sa course et de sa victoire, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus sur la Route du Rhum, parce que je pense que oui. Beaucoup, voilà, on voit l'arrivée à la télé, etc., mais on ne sait pas d'où ça vient. Wow. Et par exemple, enfin, bon, y a un
toi,
petit
tu la connais la Route du Rhum tous les vendredis soirs, Sarah. Excuse-moi, mais les tenanciers de bar, ils le disent en tout cas.
C'est pas vrai, c'est le Dry January. Pas ce mois-ci.
Sa phrase favorite, ouais, c'est toutes les alcools mènent au rhum.
Non, mais résultat, on va revenir tous les chemins mènent au rhum. C'est drôle. Mais résultat, on va revenir sur cette histoire. Et moi, par exemple, spoiler alert, j'ai découvert que si ça s'appelait la Route du Rhum, ça avait vraiment un rapport avec le rhum.
Bien sûr, tout en
fait. Et je ne le savais pas. Voilà, je vous laisse poursuivre.
C'est comme le trophée Andros.
Ouais, c'est fort de fruits.
Ça a à voir avec la confiture.
Ouais,
oui, okay. Complètement. Ouais. Non, mais c'est très souvent que.
Et ben alors oui, la Route du Rhum. Et ben je pense que c'était pour. Je pense qu'en gros, c'est deux gugus qui ont déjeuné ensemble.
Ouais.
Comment on fait pour revendre du rhum? Parce que ça marche plus très
dans
très
bien. Dans les deux gugus, il y a un Kersauzon. Ouais. Et forcément, un des frères Kersauzon qui.
Alors c'est pas Olivier du coup, c'est l'autre.
C'est l'autre. C'est pas Olivier. Ouais. C'est Florent, je crois.
C'est tout à fait Florent. Ouais.
C'est
ouais.
Florent de Kersauzon qui explique que il faudrait peut-être créer une course pour pouvoir mettre en avant en fait l'association de l'autre
de Bernard Haas qui est alors président des syndicats de producteurs du sucre du rhum
tout à fait
secrétaire général.
Ah ouais, moi j'ai président de syndicat. Écoute, je barre et je mets secrétaire à la place.
Écoute, on vérifiera, hein,
mais on vérifiera en
Sarah,
tout cas
elle tient au titre.
Oui, elle aime les titres. Ça en plus du rhum. Donc le mec dis donc Florent de Kersauzon,
il faudrait qu'on dynamise la filiale.
Ça va plus du tout là, il faut que les gens se peintent la gueule. Donc
et
comment
donc,
on fait,
qu'est-ce qu'on fait?
Logique, pour que les gens se pètent la gueule, on a qu'à organiser une course nautique.
Oui, c'était peut-être une filiale un peu moribonde et effectivement, il fallait peut-être un peu mettre la lumière dessus, dynamiser un petit peu la promo, comme on dit.
Voilà.
Et bien, il y en a un qui a une bonne idée, mais ils mettent un certain temps en fait à monter l'opération.
Ouais, on va voir, ça traîne un peu
en longueur.
Il y a beaucoup de péripéties parce qu'ils vont voir plein de monde. Il y a plein de monde qui leur dit ouais, moi je suis pas trop.
Il faut des financiers, et puis c'est pas forcément évident de se dire que on va réussir à attirer les médias.
Ça
donc du coup, il va y avoir.
Ensuite, ouais.
C'est
après,
pas aussi simple.
On sent que du côté des producteurs en Guadeloupe, là ils sont assez contents. Ils offrent d'ailleurs 500 000 francs à l'époque pour récompenser les 6 premiers. Donc
Il faut attirer le chaland là.
Voilà, ouais. pour vendre du rhum, on est prêt à mettre de la thune sur la table.
Ça donne envie de se jeter à l'eau.
Du coup, ça finit par germer.
Ouais.
Et là, première édition.
Première édition en 78.
Et à d'où elle part la Route du Rhum?
La Route du Rhum part de Saint-Malo.
Mm-hmm. Ouais. Donc c'est où Saint-Malo? C'est en Bretagne.
C'est plutôt en Bretagne, on va dire. Hein.
Voilà.
Et va jusqu'à Pointe-à-Pitre. Alors il y a une question de bâbord, tribord.
Oui.
Il faut passer par
oui,
un certain côté pour
îles.
Rejoindre des îles pour rejoindre ensuite Pointe-à-Pitre.
Ouais. Les Açores, non, c'est ça ou c'est peut-être.
Tu passes par les Açores, ça c'est sûr.
Ouais.
Est-ce que tu
passes par les Canaries ou est-ce que tu.
Ce qui est sûr, c'est que je vais bien vérifier géographiquement parlant. On passe pas par Vierzon. Hein.
D'accord.
Ça c'est sûr.
Ah mince.
Moi,
j'ai jamais vu toi, tout le temps. Mais moi, j'ai jamais vu dans le Cher,
un trimaran.
À Vierzon plage, j'ai jamais vu de trimaran.
Ah, voilà. C'est con.
Et c'est rigolo l'histoire des courses.
C'est trimaran.
C'est trimaran. Je fais une mini parenthèse parce qu'en fait, la course nautique, c'est le seul vraiment sport où c'est des, les sportifs qui ont inventé les courses. C'est vraiment deux types français,
oui.
deux marins qu'on est. C'est moi qui a la plus grosse. Non, c'est moi qui a la plus grosse. Les barons là, café. Faire une course pour voir ça.
Oui,
et
clairement.
C'est ça. Et en fait, c'est vraiment dans les. À part la Coupe de l'América, qui est vraiment très ancien et qui confronte des nations à un moment donné,
oui.
Les vraies autres courses nautiques sont plutôt apparues dans les années 60-70.
Oui, c'est très récent. C'est très et effectivement, à la différence des grandes compétitions qui sont, elles, créées par des institutions,
ouais.
Et des associations, donc on peut penser à d'autres sports, hein, bien sûr. Et effectivement, là, c'est la naissance. Et l'échange entre deux sportifs qui fait que la course deviendra un jour une réalité.
Ouais, deux trois petits exemples de courses un peu connues en plus de
le Vendée Globe.
Le Vendée Globe qui est encore,
bien sûr.
Qui est très connu, qui part des Sables d'Olonne.
Ouais.
Moi, je savais jamais si c'était le Vendée Globe,
oui.
Vendée Globe, voilà.
C'est comme le ballon prisonnier. Ou le,
la, la balle, balle au prisonnier. Balle au prisonnier ou ouais. Le ballon prisonnier.
Ouais. Non, on n'a pas eu ce problème.
Moi, ça va de ce côté. Moi, ça va de ce côté.
Ouais, ouais. D'accord. Bah, je demanderai aux auditeurs.
Ça marche.
D'ailleurs, je vous le demande. Il y a aussi la transat Jacques Vabre.
Oui.
Voilà. Alors, pour Sarah, la transat.
Qui est une course transatlantique en double entre la puissance du port du Havre et un port d'Amérique du Sud, hein, au hasard. Tiens, quel port d'Amérique du Sud cette année? Le Vendée Globe, on l'a pas dit, mais c'est le tour du monde sans escale et sans assistante. Sur monocoque et la solitaire du Figaro tous les ans.
Il y a la voilà. Course de l'Américain, non?
Il y a la Coupe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu m'avais écouté.
D'accord, ben non, j'étais en train de me curer le nez.
et la Coupe de l'Américain, c'est vraiment la, ta date de naissance, vu qu'elle a été créée en 1851.
Ah, bah oui, je me souviens.
Voilà.
Et donc,
il y avait 12 ans.
Pour se donner un peu une idée de la route du Rhum, combien ça représente, alors si tu prends la route la plus courte, ce qui doit être assez compliqué dans les faits. Hein. Ouais. Mais théoriquement, c'est 370 miles. Non, 1000, pardon, miles. C'est un...
t'as dit un nombre au hasard, là, Sarah.
3510.
Je vois, précisément ce que ça représente.
Et si je les convertis, ça fait 5649
km. Et les miles, ça fait beaucoup de bons d'achat ensuite pour les... Combien de kilomètres, du coup?
Je ne sais pas. 5649.
Soit l'équivalent que la distance que vous marchez en ce moment dans les rues de Paris ou de France pendant les grèves.
Tout à voilà. Fait.
Et le record aujourd'hui est détenu par François Joyon. Francis Joyon, bah, j'ai tout faux là. Vainqueur en 2018 de la 11e édition en 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes.
Ouais, mais c'est un kéké, il avait un moteur.
C'est l'équivalent de Younes quand il traverse Voltaire, quand il fait Voltaire-Charonne.
Exactement. <Voilà.
rire> Et donc, et en moyenne, ça lui fait une vitesse de 23,95 nœuds. Et si je convertis les nœuds, ça fait 44 km/h. Oui, j'ai fait plein de maths.
Et en bon d'achat, Smiles.
Convertir les nœuds, c'est énorme.
Et pour dire donc, du coup, on rappelle qu'elle a fait des éditions avant. Elle a fait donc 78, on l'a dit, 11e, 20e en 86. Pas du tout, 20e en 82, 11e en 86. Et elle arrive, donc, où elle va arriver en 1990, donc oui. 4 ans. Plus tard.
Et oui, et donc pour prendre quelques forces avant de nous lancer dans cette quatrième route du Rhum aux côtés de Florence Artaud, je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter ensemble le duo de Florence et de Pierre Bachelet.
C'est bien le nom que tu voulais, toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux.
Comme un rocher sur la lande, tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières.
Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouve parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Il se quittait déjà.
pierre. Quand mon voilier s'envole sur l'eau, j'ai l'impression d'être un oiseau. Mais j'ai le cœur sans illusion. Pierre, t'as le nom d'un caillou qui affleure. Où pourrait naufrager le cœur? Danger pour la navigation.
Si la pluie te mouille parfois, les vagues tournent autour de toi, c'est toi qui les mène en bateau.
Chacun est fait comme il est,
chacun prend feu comme il peut,
mais sous le ciel immense,
tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouve parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Il se quittait déjà. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, chacun va son chemin.
La, 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 la,
mon
la,
idole, Pierre Bachelet. La,
chacun la, va son la, chemin.
C'est un tout autre podcast en fait. Ce que ça... On a un truc pour le karaoké, je crois.
On a basculé.
J'espère que vous avez aimé ce duo Flo.
Bah oui.
Pierre Bachelet, oui. Florence
Bachelet,
Artaud.
Dont on parlait
alors,
déjà dans...
Ça a été moqué. Hein. Ça a été moqué.
Ah
hein,
bah
ce
ça m'étonne qu'à moitié.
Younes s'en ouais. rappelle.
Ouais, ouais. Et ben moi, j'étais pas vraiment content.
Qu'on s'en moque parce que toi, t'aimais déjà ça.
Ah bah ouais, j'adore.
Mais t'avais versé ta larmichette là.
Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais, il y a mes deux idoles.
Alors, nous sommes en 1990, oui. Qui va être une année assez marquante, assez formidable hein, pour Florence Artaud. Et avant même de prendre la route du Rhum, elle va déjà marquer les esprits puisqu'elle va battre un premier record.
Ouais, alors déjà, elle récupère tous mes pogs dans la cour de récré.
Ça, c'est un record.
Ce qui est quand même pas mal. Mmh. Ensuite, elle fait parler d'elle, effectivement, parce que elle s'attaque au record de la traversée de l'Atlantique Nord, qui est un peu mieux que le traité. Donc, la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire, qui était alors détenue par Bruno Perron.
Ouais.
Et elle le bat, hein, tout simplement, le brave Bruno, en 9 jours, 21 heures et 42 minutes. Donc il faut quand même te dire qu'elle améliore la performance de Bru-Bru de 2 jours.
Elle lui met 2 jours dans la tête.
Avec le nouveau bateau, avec Pierre Premier qui rentre en scène et qui fait une entrée fracassante dans la cour des grands voiliers.
Et quelqu'un de proche de Bruno Perron qui s'appelle Loïc Perron.
Oui. Oui, accessoirement son frère.
Voilà. Comme de par hasard, il va dire que il est pas sûr que ce record veuille dire grand-chose parce que quand même, faut pas déconner, c'est un petit aller-retour vite fait sur l'Atlantique.
Ouais, mais il y a toujours un parasite pour ouvrir sa bouche.
Oui, alors pour aller dans le sens de Loïc quand même. Bon, non, on sait pas si ce record veut dire grand-chose ou pas, mais ce qui est vrai c'est que en voile ou en traversée, il y a 12 000 records, ils font 15 000 traversées différentes, c'est vrai qu'on a toujours
mais
toujours détenteur de quelque chose.
Il y a aussi au fur et à mesure du temps qui passe, les bateaux qui s'améliorent.
C'est ce que j'allais dire, merci Olivier. Ouais, effectivement, il y a une amélioration technique quand même et on est quand même sur des prouesses qui sont aussi possibles aujourd'hui parce que bah, on a, je pense, des bateaux même qui ne touchent quasiment plus les eaux.
Et donc,
c'est des avions, ça.
Oui. Oh la vache. Et donc, ce que tu allais dire, Sarah, c'est probablement que Florence, elle arrive. Ça a beau être la fille, c'est plus trop la fille justement à papa.
À papa.
Hein, elle se montre qu'elle s'entraîne dur et parfois beaucoup plus que d'autres marins qui se la collent. Pendant qu'elle, le week-end, elle va aller naviguer quoi qu'il arrive contre vents et marées. Et donc, elle arrive quand même à la route du Rhum avec de façon assez solide, quoi.
Bah, ouais.
C'est ce qu'on croit.
C'est exactement la transition que j'allais faire, Olivier. C'est parfait. Et voilà. Je te laisse enchaîner.
Eh bien, bien sûr. Donc, les billes à la cour de... Ah non. Et donc, elle arrive avec toutes les cartes en main, croit-on. Sauf qu'en fait, ça ne va pas se passer complètement comme ça, parce qu'on va voir que bah, ce n'est pas gagné. Elle arrive le coup emprisonnée dans une minerve. Ouais. Et ça, franchement, moi, ça m'énerve. Voilà, donc dissimulée à peine sous un foulard de soie, elle est très taiseux.
Ouais.
Et du coup ça va continuer en plus à alimenter les rumeurs, on se moque d'elle, notamment un journal, un quotidien sportif qui paraît tous les jours.
C'est vrai ?
Qui a toujours tendance à
fondre la merde là. C'est pas leur genre.
Non.
On y voit flou, Florence.
Et en fait c'est quoi, elle avait une hernie discale, hein, c'est ça ?
Oui, ouais. Apparemment. Et alors,
elle était dans le mal physiquement.
Ouais. Pendant la traversée, apparemment elle aurait eu d'autres soucis physiques.
Oui, je retrouve pas ma ligne, mais sur l'eau, à un moment, elle fait une hémorragie. Elle explique ça comme un truc de fille, mais on apprendra plus tard qu'elle a fait une fausse couche.
Alors, j'avoue que j'ai lu plusieurs trucs dessus et j'ai pas réussi à savoir exactement si elle faisait vraiment une fausse couche pendant la traversée ou si elle en a fait une avant. Et c'est une sorte de suite de contre-coup, c'est pas parfaitement clair.
Là, je pense qu'elle a fait une fausse couche. Je crois qu'elle a fait une fausse couche avant.
Juste avant,
et
ouais.
Et qu'elle s'est pas complètement
rétablie.
Oui, ça se rétablit pas une seule fois. De toute façon, les fausses couches, ça met plusieurs jours ou semaines parfois avant de se rétablir.
Du coup, on a un peu peur.
Bref, elle était pas en forme. Quoi, en
fait. C'est pas la grande forme. Ouais, ouais. On aurait dit Thibaut ce soir, quoi. Et avant de venir, parce que là, tu pètes le feu. Là, tu es.
C'est dire que en fait, plus d'un Gaillard en fait aurait certainement lâché l'affaire avec un doigt retourné et que elle remonte tout simplement sur celle assez vite et qu'elle est téméraire en fait. Voilà.
Tout à fait. Et Thibaut, tu voulais poursuivre?
Oui, bah, je voulais dire que sur cette route du Rhum 90, il y a de beaux concurrents quand même.
Bah oui, exactement.
On parlait de ça.
Alors il y a qui?
C'est le All-Star Game.
Il y a Philippe Poupon qui est un beau bébé. comment l'a raté? Il y a Mike Birch qui est un beau bébé. Ah, merde, ça marche plus. On peut pas faire la même blague à chaque fois. Qui est canadien.
C'est la mère de Bambi, ça.
Il
y a Laurent Bourgnon aussi.
Si vous commencez à faire des concours, on va plus du tout s'en sortir.
Non, il y a Laurent Bourgnon aussi qui est assez connu, qui est un navigateur chevronné.
Qui est chevronné, qui est surtout qui a fait une belle année parce que il a été remarqué en 86 à l'arrivée en Guadeloupe de son bateau qui s'appelle le Fleury Bichon.
Neuf. Voilà.
Alors moi c'est pas le nom de bateau qui me fait le plus rire. Hein. Il y a le Cacolac d'Aquitaine quand même. Le Cacolac d'Aquitaine, franchement, c'est quand même mon préféré.
Vous aussi, envoyez-nous vos plus beaux, vos bateaux les plus rigolos.
Il y a le Brigitte Bardot aussi en catamaran.
Il y a le Brigitte Bardot.
Ouais. Oui, mais je crois que c'est pas de la course.
J'ai vu, il y avait le Sodebo aussi.
Il y a Sodebo.
Oui, je crois qu'il y a le Sodebo.
Non,
oui,
je me souviens surtout du goût, non, ouais, voilà.
Non, mais il y a quand même quelque chose d'assez génial là-dedans, c'est qu'on parle d'exploits absolument monumentaux et les mecs ont des noms de bateaux de sandwich triangle sur les tours.
C'est un peu comme Tour de France avec.
Oui. Après, c'est un jeu quelque part et puis c'est accessoire, mais effectivement, c'est forcément une grande page publicitaire, la voile techniquement en fait.
Pour le coup, Pierre Ier, très classe.
Ouais, c'est plutôt classe.
De Serbie.
Bah oui.
Donc, il y a Loïc Perron aussi. Je ne sais pas si tu l'as dit.
Je crois que je l'ai omis.
Tu l'as omis.
Tu ne l'omets plus maintenant.
Et donc, la course est lancée et c'est Laurent Bourgnon qui va prendre la tête.
Bourgnon.
Je n'ai pas de jeu de mots.
Michel Hidurin.
Et donc. Il met un rythme assez élevé. Hein. Ouais. On est sur des bateaux qui commencent à être de plus en plus rapides.
Ouais, voilà. Alors, c'est des Formule 1. On est sur.
Ah bon, je croyais que c'était des bateaux.
Ouais, c'est des Formule 1. C'est chiant pour s'arrêter au stand, etc. Voilà.
Donc, ils ont des roues.
Ils ont des roues. On est vraiment sur l'avènement des trimarans face aux catamarans.
Qui sont beaucoup moins drôles, les catamarans.
C'est des mecs sérieux.
C'est la cata, quoi. Et donc, on est vraiment sur ces petits bolides sur mer. Et on se rend compte dès 90 que ça va très vite.
Oui, mais ils sont limités à 60 pieds. Ouais. Salaud de Macron.
Ce qui n'est pas pratique en tant que grève, hein, 60 pieds, parce que tu as vite fait le tour et après tu dois rentrer chez toi, quoi.
On avait dit pas de politique.
Non, vrai, pas de politique vrai. Ce soir.
Et donc, mais Laurent Bourgnon va finalement.
Bourgnon, non ?
Bourgnon.
Mais laisse-la dire.
Oui, pardon.
Bourgnon.
Non, mais laisse-la dire quand même.
Pourquoi est-ce que je veux toujours dire les noms pas
je
comme
sais
il faut
pas, on ne sait pas pourquoi, Sarah. Je crois que c'est ta malédiction.
Non, mais Sarah, moi j'adore.
Bourgnon, quoi.
Bourgnon. non.
On dirait le fruit, là. Le
brugnon.
Tu parles quand même à quelqu'un qui disait Vendée Globe en 8 mots. Donc, tu peux lui laisser dire bourguignon.
C'est sa dyslexie qui, de temps en temps, réapparaît.
Après, c'est super bon, hein. C'est super bon, hein. Le bœuf bourguignon, on se régale.
Tout est bon dans le charbon. Non, je sais pas. Je sais pas. Et donc, est-ce que vous, bon, Florence, elle va finir par faire des trucs.
Alors déjà,
pas mal.
Déjà au bout de 3-4 jours, elle donc on est en novembre 90, c'est très important de le rappeler. Elle va prendre la tête. Elle va prendre la tête tout simplement parce que le concurrent devant lui, qui je crois
devant elle,
oh là là, oui. Bernard Lebroc, je crois.
C'est un nom d'emprunt, hein, tout le monde l'aura compris. Hein. C'est Mike Hirsch en fait.
Va démater. Et il y a d'ailleurs pas mal de victimes.
Ça veut dire quoi démater, Olivier, pour ceux qui ne savent
pas. Le grand mât en fait il tombe par terre.
Voilà. Voilà. Elle débatte quoi.
T'es content que Younes voilà. Ait répondu
non,
à la question.
Je leur ai dit finger in the nose. Et voilà, Bernard de Broc. Excusez-moi.
Ah,
autant
une voilà, particule belge.
Et donc c'est finalement elle qui va animer les premiers jours de course. Et à tel point qu'au large des Açores, justement, elle a 100 000 d'avance. Elle va pouvoir prendre
à la SNCF
un tour vierzon gratos.
C'est ça.
C'est les soldes.
Voilà. Et donc, comme souvent lors de la route du Rhum, la première semaine est plutôt rythmée par les dépressions. Hein. Je parle pas de la mienne, je parle vraiment du temps. Il y a des marins comme toi, Loïc Perron là, qui se la raconte.
Ah ouais,
hein,
ben voilà,
c'est
ouais.
Pas un corps. Eh ben salut Loïc Perron, rentre chez toi. Parce que t'as débatté, parce que t'arrives pas à faire bien la météo, hein. Donc c'est fini pour lui. C'est fini pour Jean Morel aussi. Désolé.
Jean Morel.
Ouais.
Et des chiens.
Et Laurent Bourgnon, qui était premier au départ, va exploser sa dérive, occasionnant une voie d'eau.
Ça veut rien dire pour moi, ce que tu viens de dire,
si,
Olivier.
Bien sûr que si. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va s'infiltrer dans son bateau, à tel point qu'il va falloir faire une réparation avant de pouvoir redémarrer.
Grosso modo, il lui fallait du mastic.
Il va...
Ou un chewing-gum.
En tout cas, c'est le moment où la course va un peu se scinder en deux, puisqu'il y en a qui décident de prendre un peu plus par le nord.
Ouais.
Et c'est là que les ennuis vont un peu s'accumuler pour Florence.
Oui, après 8 jours de course, on va dire sa radio pour communiquer, et non pas sa radio pour voir si elle a une entorse ou une hernie discale qui permet de communiquer avec son routeur, Louis Baudin, tombe en rade. Voilà.
Ouais, donc elle est en miettes, la radio est en miettes.
Ça, c'est un peu chaud en vrai, parce que du coup, tu te retrouves complètement toute seule, mais vraiment toute seule face au flot. Et elle va en plus perdre son pilote automatique.
Et c'est assez intéressant parce qu'en perdant donc, sa radio
et son pilote
automatique, en fait, elle n'aura aucune idée de où elle est classée dans la course.
Non, ça, c'est incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable.
À savoir que ça ne lui permet quasiment pas de faire de pause. En fait, le pilote automatique pouvait aider.
Elle barre 22 heures sur 24.
C'est ça.
Elle pilote.
Elle est à la barre
24.
Donc elle est à la barre 22 heures sur 24. Donc la pause pouvant être fatale, tout simplement. Donc elle reste sur le qui-vive et elle se fait des micro-siestes.
C'est là où cette fameuse phrase Sarah, où elle dit bah, tout le monde peut le faire. Hein.
Ouais, bon. Je crois pas.
Non, et surtout c'est quand même vraiment le seul sport où vous naviguez à vue et vous savez pas si vous êtes premier, dernier, 15e, c'est incroyable.
Ouais, c'est
vous imaginez
en fait...
Usain Bolt sur le 100 mètres, je sais pas combien je suis, quand je terminais, je verrai ça plus tard à la vidéo, aucune idée.
Je m'arrête là, c'est bon, je m'arrête.
Ah c'est fini
okay. Comme Poulidor.
Donc en plus de ça, donc, la fameuse hémorragie dont on parlait, qui la laisse sans force pendant 2 jours... Donc, elle doit continuer à barrer 22 heures sur 24, mais en plus, elle perd du sang et elle est complètement toute seule. Donc, c'est vraiment l'angoisse. Elle se ressaisit, prend de l'avance à la régulière, sans savoir du coup qu'elle prend de l'avance. Elle essaie de ne pas abandonner.
Et elle va avoir un concurrent à ce moment-là principal. C'est le petit Filou, je crois.
C'est Fifi, Philippe Poupon.
Fifi.
Et sa peau de bébé.
Oui.
Qui a gagné l'édition précédente ou pas? Ou je me trompe?
Philippe Poupon.
Philippe Poupon qui a évidemment gagné l'édition.
Tout à fait.
On n'est pas du tout en train de regarder dans nos fiches.
Non, mais il a bien sûr gagné.
Bien sûr. Tout à fait, oui.
Il a bien sûr gagné l'édition
précédente devant Bruno Perron.
Bruno Perron, le frère de Loïc. Enfin, ils sont tous frères de toute façon.
L'édition de 86.
Non, mais ce qui est intéressant, ce que tu disais, Chloé, c'est fou, c'est qu'elle était à deux doigts d'abandonner, de prendre sa valise de détresse et de dire ok, venez me chercher quoi, c'est plus possible.
A raison, personne ne lui a enlevé tenue rigueur.
Pas
forcément.
De pilote automatique, pas de radio, mais vous imaginez l'enfer.
C'est quasiment du suicide.
C'est quasiment du suicide.
Jusqu'à ce qu'un avion qui la survole lui apprend, dans sa plus grande surprise, qu'elle est en tête de la course.
Yes, yes, elle est en tête, bravo.
Il n'y a rien de se jeter à l'eau.
Et là, elle est à 48, elle est à 2 jours de l'arrivée à peu près.
48 heures, ouais.
Ouais.
Et donc, elle va finalement donc remporter la route du Rhum, puisqu'elle va rejoindre Pointe-à-Pitre en 14 jours, 10 heures et 10 minutes. Elle bat le record détenu par Philippe Poupon, justement. Et
Il y a cette fameuse image qui de son arrivée sur les couchants, Pointe-à-Pitre, qui fait le Tour de France. Elle a quand même perdu un petit peu, hein, la Florence. Elle est plutôt amaigrie. Elle est en caleçon et t-shirt d'époque.
Qu'elle n'a jamais perdu, hein.
Voilà, qu'elle n'a jamais perdu finalement. Et voilà, elle est accueillie comme une rockstar.
Mais c'est complètement dingue en France, en tout cas dans les JT, etc. Même plusieurs heures, on va dire plusieurs jours, donc à 2 jours finalement de son arrivée, il y a un événement qui se crée autour de Florence Artaud. Donc on en parle vraiment à tous les JT et c'est quelque chose qui est quand même considéré comme un exploit. Déjà à l'époque, sur le moment, c'est déjà mesuré.
Et donc dans la douleur mais avec la manière, Florence Artaud devient la première femme à remporter la route du Rhum. Et encore une fois, je lui laisse la parole.
Il est 18h, heure locale, 23h, heure française, lorsque Florence Artaud, dans le soleil couchant, se rapproche de la ligne d'arrivée, entourée d'une myriade de bateaux accompagnateurs. Ce petit bout de femme, perché sur sa grande araignée géante, gagne la route du Rhum. À 18h10, c'est fait. Elle est la première à mettre le mot marin au féminin, la première à remporter une course transocéanique. En plus, elle ne néglige rien. Elle s'approprie au passage le record de la traversée détenu jusque-là par Philippe Poupon. Débute alors un délire complet sur l'eau et à bord du bateau. Maman Artaud est venue retrouver sa fille. En arrivant sur le quai, c'est au tour du père de retrouver son héroïne de l'Atlantique. Grand moment d'émotion, mais pour nous les journalistes, c'est la cohue la plus totale. Au milieu de ce désordre, Florence Artaud, comme un homme, remet de l'ordre. Elle vient de détruire un mythe, même si elle s'en défend.
Mais je crois pas que le milieu des marins soit un milieu de machos. Je pense qu'on s'en fait cette image-là, mais je sais que Philou, quand il a su que j'étais arrivée hier, m'a fait passer le message comme quoi il était très fier de sa copine. Et je crois que, enfin, j'ai toujours eu cette réaction vis-à-vis de lui quand il a gagné. Et je pense que c'est un milieu de marins où les gens s'estiment pour leur qualité et pas du tout un milieu de machos.
Alors, effectivement, hein, comme le dit Florence, c'est possible que la voile ne soit pas un milieu de macho, mais il faut le dire quand même, sa victoire bouscule un milieu alors exclusivement masculin. Mmh. Et elle dira d'ailleurs en octobre 2014, ce n'est pas un métier de femme, c'est un univers dur, rude, où on est tout le temps sur les mers. Et Florence, en remportant cette route du Rhum, va ouvrir la voie à d'autres femmes. On a déjà cité Isabelle Autissier. Ouais. On peut aussi citer Catherine Chabot, par exemple.
Ségolène Royal.
Oui,
tout à fait.
Ouais, ouais, ouais,
Hélène
ouais.
MacArthur.
Hélène Exactement. MacArthur, qui sera ouais. l'autre femme, d'ailleurs, à gagner en la route du Rhum, mais en monocoque. Voilà, qui n'est pas la version multicoque de Florence. Qui, voilà. Et c'est rigolo parce qu'elle est, élue... par le journal L'Équipe qui nous fait une petite Aimée Jacquet.
Ah, elle est élue. Non, c'est pas leur genre.
Ah oui, oui, qui du coup là, qui change leur fusil d'épaule.
Ils reviennent. Ah, d'accord. Et ils retournent leur veste.
Oui, qui elle est élue championne des championnes en 90.
Ok.
Et elle est aussi la seule sportive avec Marielle Gottschall. Tiens, on en parle aussi dans une émission.
Oui.
À obtenir à 2 reprises le prix Monique Berliou de l'Académie des Sports, qui récompense tout simplement la meilleure performance féminine sportive de l'année.
Écoulée.
Et voilà.
Il faut reconnaître un vrai talent,
pas fait Florence.
Non. Un vrai talent à L'Équipe quand même de retourner aussi facilement sa veste. Je trouve toujours ça très beau. Ouais. Ils pourraient s'entêter. Non, ils ne le font pas.
Non, mais c'est...
En 40, L'Équipe, ça pourrait être. Oh, non, je m'arrête là. Pardon. À couper mon
et
micro.
Là,
on a entendu 2 syllabes de commandant de tour seulement.
Thibaut ne reviendra pas le mois prochain.
Au revoir à tous.
En tout cas, à ce moment-là, elle devient une vraie star, une vraie figure.
Ouais.
Et pas seulement pour sa victoire, hein, c'est également pour son franc-parler, pour aussi, elle va beaucoup s'engager pour défendre la cause des femmes, pour sa détermination. Et puis, voilà, ça, ça, elle inspire quelque chose de liberté, d'aventure, etc., qui va beaucoup plaire.
Bah, oui, elle s'engage pour le combat, pour les femmes, évidemment, ça a été mais aussi pour l'environnement, mais aussi pour contre la pollution. Donc, elle est c'est une femme très engagée, ouais, et qui n'a absolument pas peur de le dire, et qui même met ça en priorité.
Oui. C'est quelqu'un de concerné, hein, on va dire, qui à aucun moment ne survole les événements en surfant sur son succès. C'est pas du tout voulu et volontaire. C'est vraiment sorti de ma bouche sans réfléchir.
C'est beau, Younes. Voilà. C'est très beau.
Quand on a un tel tempérament et qu'on a tendu se battre pour atteindre ses objectifs, évidemment qu'on a ensuite un rôle à jouer dans la société. C'est ce qu'elle fait. C'est
ouais. Bien.
Mais comme Nicolas Nelka, quoi.
Tout à fait.
Oui, et puis candidate à la présidentielle ensuite pour Lutte ouvrière, Laurent Sarto.
Nicolas Nelka.
Mais finalement, ce qui aurait dû un peu lancer sa carrière, cette course, ça va être un peu finalement le point culminant. Et malheureusement, en tout cas en termes de record, elle ne parviendra jamais à l'égaler. Et ça, il y a différentes raisons. Est-ce que vous pouvez... me les citer,
oui,
s'il vous plaît.
Alors malheureusement, ouais, son retentissant succès ne sera de courte durée, puisque dès 92, elle n'arrive pas à trouver de sponsor.
Ouais.
Exactement.
En raison de la crise immobilière de l'époque. Elle voulait un trimaran plus grand parce que, évidemment, comme on l'a dit, les victoires passent aussi par l'amélioration constante des bateaux.
Oui, à savoir que son sponsor, à la base, était un promoteur immobilier.
Oui, donc, et donc il ne peut pas la suivre.
Ça correspond automatiquement au manque de moyens et aux coupures d'investissement. Ça me fait beaucoup penser, en fait, au sport automobile, effectivement. Mmh. Quand on voit la Formule 1 et les pilotes, ce sont souvent des gens qui arrivent à capitaliser les équipes financières autour d'eux et qui sont eux-mêmes issus de milieux sociaux hyper aisés.
C'est vrai.
Donc, ils ne sont pas moins talentueux, mais c'est juste qu'effectivement, on n'a pas forcément les plus doués. C'est pour ça qu'on a souvent un champion qui surnage complètement la compétition, parce qu'il est plus doué que les autres, mais il a aussi les meilleurs financements.
Manqué ! Ça faisait longtemps !
Eh ben ouais !
Ah oui, voilà. Ça faisait longtemps, c'était bien.
Ouais, peut-être, Younes, tu peux continuer sur la crise immobilière. Non,
oui, la bulle de 2008.
En 92, tu fêtais tes 40 ans et tu avais du mal à trouver un appartement à l'époque.
Ah, c'était compliqué.
Après, franchement,
j'ai tout hypothéqué.
Et Younes, c'était bien ce petit studio à la mode Piquet-Grenelle. Enfin, on va pas cracher dessus, quoi.
Non, bien au contraire.
Bien sûr, les chiottes étaient sur le palier, mais bon.
Ouais, mais tu sais, c'était la bohème.
Et ça voulait dire
et donc c'est vrai que Florence donc perd finalement son sponsor qui n'a plus les moyens de la suivre, donc elle sera obligée de naviguer mais sur des bateaux un peu moins puissants que son Pierre Ier. Au-delà de ce problème-là, on va aussi pointer la question de son caractère aussi un peu.
Ouais, mais alors là ça c'est sidérant parce qu'en fait elle a quand même remporté la Route du Rhum, donc elle n'est pas forcément autre chose qu'une favorite pour la prochaine édition. Et globalement, elle devrait capitaliser de la confiance, contrairement à un homme, entre guillemets, qui lui n'est pas forcément arrivé premier, mais qui va de toute façon avoir plus de simplicité dans ses démarches à obtenir, entre guillemets, des financements et trouver un sponsor.
Et ce qui est assez particulier, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver de sponsor aussi parce qu'elle a un tempérament très masculin. Et un peu hors de contrôle, elle fume, elle boit,
mais
elle a
c'est juste qu'elle a tout tempérament,
dans
elle
chaque
pas...
port.
Oui, mais elle n'est pas masculine plus pour autant, c'est juste une nana qui est libre et qui est autonome.
Mais à l'époque, c'était évidemment comme masculin.
Et ça, c'est un
et
rapport...
on ne va pas se lancer dans ce débat-là.
Non, mais c'est un rapport, entre guillemets, d'une évolution des mœurs, c'est bien heureusement qu'aujourd'hui, une nana a encore le droit de faire ce qu'elle veut, sans pour autant qu'on la qualifie de mec, en fait.
Et d'ailleurs, c'est pour reprendre ce que tu disais, c'est Isabelle Autissier qui dira qu'elle était extraordinaire sur l'eau, mais qu'elle était incontrôlable sur la terre et que ça avait joué contre elle, voilà, qu'elle mangeait, buvait, fumait et qu'elle avait un peu pas de limite. Et elle dit, ce n'était sans doute pas du goût des sponsors. Regardez les marins qui naviguent aujourd'hui, ils sont plus rangés, plus lisses, plus gentils garçons. Je trouve ça rigolo.
Ouais, mais elle était vraiment ce que tu dis, ce que dit Autissier, ce côté nos limites, elle l'avait vraiment. Et à un moment donné, où quand tu perds ton sponsor, t'as ce côté-là très, tu mets du temps à t'en remettre. Et je crois qu'elle est vraiment tombée en dépression après la perte de son sponsor, où elle ne savait plus trop ce qu'elle devait faire.
Après, il y a peut-être une explication, c'est que ces modèles d'inspiration sont d'une génération d'avant, et donc des gens qui étaient un peu plus bourrus et des gens qui étaient un peu plus authentiques, alors que toute une nouvelle génération qui arrive avec elle dans les années 90 sont peut-être un peu le modèle du marin un peu plus lisse et plus télévisuellement acceptable peut-être.
Alors ensuite, vas-y.
Pardon, non, et il y a un autre événement dans sa vie personnelle qui va faire que pendant un petit moment, elle pourra un peu moins naviguer.
Et oui, en 93, arrive Marie,
sa petite fille. Et elle le dit d'ailleurs, moi j'ai fait ma fille à 36 ans. Avant, je n'ai pas eu une vie de femme, j'ai eu une vie de patachon et d'aventurière. Ouais. C'est dire. Mais bon, malgré tout ça, elle va continuer quand même à parcourir les mers et avoir envie d'aller toujours plus loin. Et de, voilà, de, elle va continuer à faire un certain nombre de courses.
Ouais, elle remporte la Transpacifique avec, en étant coéquipière de, tiens, encore lui, Bruno Perron.
Ouais. Le frère de.
Bon, elle fait la solitaire du Figaro, je crois. Elle va essayer de s'attaquer au record du monde en solitaire. Elle va essayer de réunir des fonds, ça va être un échec. Elle est toujours, quand même, malgré tout, même si elle s'attaque à certains records où elle veut s'y attaquer, elle est toujours dans la problématique de réunir les fonds, trouver un sponsor, qui sont des choses assez difficiles pour elle, à partir du moment où, comme on l'a dit, elle est sur Terre, quoi.
Et elle a touché le Graal si tôt aussi, c'est toujours compliqué dans la carrière de ces sportifs ou de ces aventuriers d'atteindre le sommet si tôt et de continuer ensuite.
Et de maintenir le.
Tu veux dire comme Richard Gasquet et sa couverture de l'équipe.
Exactement. Oui, ben, j'y pensais pas, mais c'est un très bel exemple. Ça.
On revient toujours à l'équipe.
Je comprends pourquoi t'es la patronne ici.
Oui, je sais. Elle va aussi en profiter pour écrire son autobiographie. Oui. Un vent de liberté qui sera préfacé par Olivier de Kersauzon et qui paraît en 2009. Oui. Et en 2010, ça fait donc 20 ans qu'elle a gagné la route du Rhum.
Donc c'est l'anniversaire de sa victoire, oui.
Exactement. Et elle ne va pas réussir à trouver de sponsor pour recourir à nouveau.
Ça la met en colère et effectivement, elle prend un peu des distances après ça.
Bah, surtout qu'on donne son bateau à un homme qui va abandonner pour avarie assez tôt dans la course. Donc je pense qu'elle peut l'avoir mauvaise aussi pour ce point-là.
Elle est pas très bien du tout, à tel point qu'elle va trouver, elle va essayer de trouver du réconfort, parce que je pense aussi que le côté célébrité, elle doit toujours revenir sur sa victoire 90, etc. Oui. Je pense que ça la gonfle. Ouais. Et du coup, avec une association qui est l'association préférée de Franck Ribéry, vu que ça s'appelle La Roue Tourne.
La Roue Tourne va tourner.
Et qui vient en aide aux célébrités. Donc toi, Younes, tu sais vers qui te tourner si jamais ça va mal.
Oui.
Je sais que Mickaël, hein, qui n'est pas là, est aussi. Alors, faut quand même le dire. Mickaël n'est pas là aujourd'hui aussi parce qu'il est en ce moment...
À la roue tourne.
Voilà, il est bénévole pour cette association. Il avait vraiment besoin...
D'un peu de temps.
Voilà, après le Bataclan, d'un peu de temps pour lui.
C'est aussi parce que j'ai fermé les toilettes.
Ok, hein. D'accord, je n'avais pas cette version-là, autant pour moi. Donc, la roue tourne, voilà, qui étudie chaque cas.
En particulier,
qui va essayer,
en évitant voilà, de porter un jugement. Et puis, forcément, en fait, c'est de l'aide juridique, c'est de l'aide même sociale, hein, globale, et puis de l'aide médicale. Ça permet un peu de prendre en main, entre guillemets, des gens qui, habituellement, avaient un entourage pour pouvoir s'occuper un petit peu des tâches du quotidien qui nous semblent, nous, très communes, mais qui, en réalité, quand on est amené à faire des performances, qu'on soit même un artiste de scène ou même un grand sportif, on est très peu occupé sur les tâches du quotidien. Et forcément, on est vite débordé quand on a une blessure en tant que sportif ou en tant qu'artiste, ou quand on est mis après un échec de côté. Ça devient très difficile dans la vie, et cette association structure, entre guillemets, un entourage qui permet de revenir un peu.
Donc, voilà. Grâce à cette association, Mickaël fait enfin la vaisselle chez lui.
Le lundi.
Florence, elle avait frôlé la mort en 1974. Elle va la frôler une nouvelle fois en octobre 2011.
Oui, elle va tomber de son bateau en pleine nuit, au large. Waouh. Aucun air qui va sortir. Au large du Cap Corse.
Cap Corse.
Ok. Disposant, elle était sortie. Heureusement avec sa lampe frontale et un téléphone
portable étanche.
GPS.
un attel. Et grâce à ça, elle va quand même réussir à contacter sa mère qui va contacter le CrossMed, et le temps qu'ils arrivent, elle va alterner la frontale en allumé éteint pour faire des appels et pour essayer d'économiser sa batterie.
Ok, moi je serais mort instant zéro. Hein.
Oui, j'aurais pleuré tout de suite.
Je sais pas si vous imaginez le pourcentage de chances de survie quand on tombe d'un bateau, en fait.
Surtout que là c'est résumé, mais en fait, sachant au début, son portable, elle n'arrive pas à l'allumer, donc elle se dit il est peut-être pas étanche ou j'ai plus de batterie ou
machin. Sachant que c'est tout nouveau et que c'est son frère qui lui fait ce cadeau du téléphone portable. Donc du coup, en définitive, elle joue un peu des deux éléments qu'elle a par instinct de survie ou même certainement par beaucoup l'expérience. Effectivement, elle réussit à garder l'espoir et à ne jamais lâcher l'affaire. Et puis à ce moment-là, bah, effectivement, elle a de la chance.
Alors elle est repérée, elle est confiante, là, mais en état d'hypothermie.
Elle est 3h20 après son appel. Hein.
3h20 après son
incroyable.
Appel, c'est énorme. Elle arrive à l'hôpital de Bastia où très vite on lui dit que ça va. Et pendant les 24 heures qu'elle va rester là-bas, elle va harceler tout le monde, du personnel de l'hôpital jusqu'aux gens qui doivent récupérer son bateau, parce que le seul intérêt qu'elle a, c'est de savoir où est son bateau qui est parti à flot tout seul.
Et il y a qui sur son bateau?
Il y a son chat.
Il y a Blika.
Blika,
le chat.
Il va être sauvé.
Il y a cette photo. Il y a une photo. On vous mettra sur les réseaux sociaux.
Vous avez
donc compris qu'on ne le fera pas.
Si. on va s'y tenir cette fois-ci. Promis, on vous met tous les trucs qu'on n'a pas mis, les essais incroyables dont on parlait, les échanges de tennis, tout ce dont on s'est dit dans le Poulie d'Or et compagnie.
Non, mais Thibaut, il est d'accord, il réécoute tous les épisodes et il me prépare tous les extraits. Il a dit.
Ouais, il a dit ça. Il a dit ça.
J'ai dit ça.
Sinon, on enlève le verrou des toilettes.
J'ai dit ça. Enlever ce fusil de mon épaule.
Et donc, Blika, un fort beau charou. Voilà, d'ailleurs Blika et Florence, heureusement qu'ils se sont retrouvés, parce que de toute façon ils étaient faits l'un pour l'autre.
Oh. Et on aimerait bien que cette histoire se finisse un peu mieux que la manière dont elle se finit,
qu'elle soit pas encore finie même.
Et aujourd'hui Florence est ministre des sports.
Voilà, et on arrête là. Oh, ce serait tellement
je sais
bien
pas si c'est vraiment mieux.
on aimerait tant et ben non, malheureusement.
Et celle donc qui aimait tant la mer va finalement s'éteindre tragiquement dans les airs.
Oui.
Lors d'un fait divers qui nous a tous, je pense, pas mal marqué.
Ouais, bien affecté, je pense. On va quand même en parler. On est en 2015 et une émission est en cours de tournage en Argentine.
On est en 2015?
Oui. Réveille-toi. Il reste 5 ans avant 2020.
Et tellement.
On est en Argentine et une émission qui s'appelle
Dropped.
Merci. Et en cours de tournage.
Ouais, elle réunit des sportifs de haut niveau.
Des sportifs de haut niveau, mais aussi des gens qui ont envie de se mettre des challenges. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit, Koh-Lanta, toutes ces émissions un peu de l'extrême dans lesquelles on met des gens un peu seuls et dans des conditions isolées et dans lesquelles, en fait, ils doivent se surpasser. Et là, on a des manœuvres qui sont, pour le moment, pas encore complètement élucidées, de deux hélicoptères qui survolent la Pampa. Et sur des images amateurs et on n'a absolument pas de détails là-dessus, même si les enquêtes avancent. On a les deux hélicoptères qui se percutent en plein vol.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Oui. Pas complètement, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en exergue par rapport à l'enquête, mais pour le moment, c'est que des pistes et c'est tout simplement une enquête qui est encore en cours. Nous, on a forcément beaucoup d'affect. Après avoir travaillé sur Florence, et donc on a décidé pas forcément de rentrer dans le détail de l'accident, mais je voulais quand même revenir sur les conditions de ce genre d'émission dans lesquelles en fait on met souvent les gens à dure épreuve et notamment des conditions de travail, parce qu'on utilise les gens pour faire de l'audience et pour faire aussi du spectacle à la télévision, et parfois pousser les potards un peu trop fort,
ouais.
Ça fait prendre des risques et c'est pas forcément pour le meilleur, on le voit là malheureusement.
Et dans les noms connus, il y a donc la nageuse aussi Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine.
Ouais,
qui vont mourir dans cet accident.
Médaillé aux Jeux Olympiques, il me semble. Enfin, bon,
au côté d'eux, parce que c'est important quand même
de
le dire,
oui.
Aussi
de deux pilotes, de deux cadreurs,
des techniciens, d'ingénieurs de son.
Non, mais c'est terrible. Et ça, moi, je ne me suis pas trop renseigné, mais quand tu nous as mis justement le lien et
sur les
tu parles de la boîte de prod ALP.
ALP, oui, tout à fait.
Ça donne envie d'aller creuser un peu plus, parce qu'effectivement, les conditions de tournage sont telles que les erreurs arrivent forcément à un moment donné. Alors, quand c'est dans un tournage où tu oublies de faire le catering, ou tu oublies de faire machin, ou tu perds une caméra parce que t'as pas mis tel machin, ok.
Que le café soit trop chaud, voilà.
Mais dans les conditions extrêmes comme ça, ça pose quand même beaucoup plus de questions.
On est sur des véhicules qui demandent une certaine vérification. Les hélicoptères, c'est quand même forcément lié à la sécurité avant tout. Et on a des cadreurs qui sont embarqués à l'intérieur. Et effectivement, une des pistes qui est laissée qu'on laisse entendre dans les investigations, sont peut-être la nécessité de faire des images pendant ce vol.
Horrible.
Et voilà. Donc ça peut ça peut laisser entendre qu'on cherche à faire tout simplement un cadre qui n'est pas forcément prévu dans le plan de vol.
C'est terrible, son frère, je crois, qui disait que finalement, la seule fois où elle a remis un peu sa sécurité dans les mains d'autrui, c'est finalement la fois où ça s'est mal terminé.
C'est terrible. Et c'est d'autant plus tragique que si Florence Artaud faisait partie de ce jeu télévisé, c'était pas seulement pour se mesurer un petit peu à des épreuves qu'elle avait jamais affrontées jusqu'à présent, c'était aussi pour trouver un fonds pour financer son nouveau projet, l'Odyssée des femmes. L'Odyssée des femmes, c'est une course réservée uniquement aux femmes qui transmettent leur passion et leur goût de la liberté. Je vais la citer très rapidement. « Tout ce que la mer m'a donné, toute cette liberté, j'ai envie de la transmettre aux femmes qui n'ont pas la chance, comme en France, de pouvoir naviguer au grand large. » Elle souhaitait aussi, par ce biais, défendre la cause des femmes dans les pays du Maghreb. Le départ devait se tenir dans la ville de Sète. Donc en 2015, cette année-là, la première édition comptait déjà 6 équipages. Il y avait un équipage qui était entièrement composé de sénatrices, donc ce que je trouve fou, déjà. Et malheureusement, la course est officiellement reportée en juillet 2015, après des annonces de « oui, on va essayer de la maintenir quand même ». Christian Bim, le patron de SportTG, qui était partenaire de la course, estimait que sans elle, le niveau technique manquait de leader. Et depuis, on n'a jamais entendu parler de l'Odyssée des femmes.
Ah bah super.
Et donc, une dizaine de jours après sa mort, son dernier livre intitulé « Cette nuit, la mer est noire » sort donc le 19 mars 2015. Et je vous propose, pour clore cette histoire, une brève citation de Florence Artaud sur sa vie de marin. « On n'avait rien, on n'avait pas de maison, on vivait sur nos bateaux, on avait une bande de potes qui était notre famille. » Et sans transition, je crois que c'est l'heure de l'antidoping et que Younes a une petite histoire pour nous.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc il fallait faire la petite chose.
Waouh, c'est toujours difficile d'enchaîner avec...
Allez, à toi de jouer.
Après Marcel, je vais vous parler de Bobby. Qui connaît Bobby Gibb? En fait, c'est Roberta. Donc, c'est...
Ça commence.
Bobby a grandi dans la banlieue de Boston. C'est une jeune fille qu'on appelle Bobby, mais qui s'appelle Roberta Gibb. Et dans les années 40, elle grandit. Elle étudie à Boston. Et Boston, il y a quelque chose de plus célèbre encore que les Celtics. C'est le marathon.
Oui.
Et le marathon se court avant 76 sans femme. Donc je voulais forcément mettre l'accent à un moment donné sur le destin d'une femme qui bouscule un petit peu les traditions patriarcales et qui tout simplement trouve qu'elle a les moyens d'être à la hauteur de ce que les hommes font.
Être et à la hauteur.
Merci, je l'attendais.
Et
dire que j'ai pas osé.
Donc elle grandit dans le Massachusetts. Quelqu'un a une blague là-dessus, non? Ça va?
Alors faire une blague, un jeu de mots sur le Massachusetts, c'est chaud. Hein, quand même.
Voilà, son père était professeur de chimie.
Mais elles sont sales, Non, je sais pas, toi. Non, ça continue.
Et c'est pourtant la meilleure blague qu'on peut faire là-dessus.
Bon, elle grand...
jamais les enlever.
Bon, ça suffit.
Sinon, ça pue des pieds.
Alors...
Bon, elle grandit en pleine nature, elle court à travers les bois, elle trouve des chiens à courser dans son quartier. C'est vrai, c'est véridique. Elle rencontre un jour un coureur de fond à Tuft nommé William Bingay.
À Tuft?
À Tuft, c'est une ville voisine de la sienne.
Comme Vierzon.
Donc William Bingay qu'elle rencontre, qui deviendra plus tard un marin et son premier mari. Voilà. Voilà. Donc déjà, il y a un lien avec Florence.
Oui. Tout à fait.
Ils se sont mariés le 5 février en 66 en Californie. Elle court à pied. Sa course à pied comprenait les trajets du quotidien. Donc, elle allait à l'école.
Elle allait au boulot aussi.
Ouais, elle allait au boulot.
Et figure-toi.
On finira jamais cet antidoping.
Non, c'est sûr. Et figure-toi que pour courir, elle prenait des chaussures d'infirmière de la Croix-Rouge en cuir. Parce qu'il n'y avait pas de chaussures pensées et disponibles pour les femmes. C'est te dire que déjà à l'époque. Donc là, on est en quelle année? On est en 66.
Bah non, on est en 2000.
Bon, avant 66, on croyait généralement que les femmes étaient physiologiquement incapables de courir des distances de marathon. Donc, distance du marathon?
42.
Merci. Et quelques brouettes.
Oui.
Voilà. Mais en tout cas, ça représente une distance qu'a parcouru un berger. célèbre après avoir parcouru la distance entre Marathon et la cité d'Athènes pour prévenir l'arrivée.
C'était Michel, non ?
Ouais, c'est Michel, voilà. Et en fait, en prévenant l'arrivée de l'armée, il crève. Donc il court 42 km.
OK.
Et il passe l'arme à gauche. Et cette distance.
Il y a l'armée, il y a la.
Cette distance a été gardée comme étant la distance symbolique.
Référence
pour le marathon.
OK.
Donc on juge que les femmes ne sont pas capables de courir plus d'un kilomètre deux quand même.
Ah oui.
Ah oui. Un kilomètre deux.
Voilà. En cas de dépassement, elles risquent de faire une descente d'organes.
Ouais. Voilà. Faut pas te dépasser par la droite aussi, hein, voilà. Sur l'autoroute.
Donc aucune femme n'est autorisée dans la division d'une course classique, voilà. Donc Gib, comment elle fait ? Elle qui adore courir après les chiens. Et ben elle s'entraîne pendant 2 ans pour courir le marathon de Boston parce qu'elle décide quand même qu'elle est capable de le faire. Mmh. Donc elle couvre largement la distance et elle se dit qu'elle va le faire. En écrivant pour une candidature en 66, elle reçut une lettre du directeur de course, donc qui s'appelle Will Cloney, qui l'informe que les femmes n'étaient pas physiologiquement capables de courir la distance. Donc il la recale gentiment et poliment. Réalise qu'il était plus important que jamais de courir et que sa course aurait une signification sociale bien au-delà de son propre défi personnel. Donc là, on est fin des années 60. Il commence à y avoir un peu des mouvements de prise de conscience individuelle et collective face à cette Amérique bien conservatrice. Donc après 3 nuits et 4 jours dans un bus qui l'emmène de San Diego en Californie, bien entendu, à Boston. Oui, tout à fait, dans le Massachusetts. Elle va dormir chez ses parents à Winchester, qui vivent pas très loin de la course. Et le matin du jour, donc c'est le jour officiel du Patriote aux États-Unis. C'est le 19 avril. Ah ce oui. matin-là, c'est le jour du marathon de Boston.
Ah oui, bien sûr.
Sa mère la dépose devant l'Optington.
Non, c'est pas vrai. Sa mère conduit devant et elle court à côté de la voiture.
C'est ça, voilà. On peut l'imaginer comme ça. En tout cas, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se vêtit d'un Bermuda, celui de son frère, et d'un sweat à capuche bleue.
D'un sweat ?
Un sweat, okay. Oui, on ne dit pas okay, sweat. Ouais, ouais. Oui. D'un sweat à capuche bleue et d'un maillot de bain noir et débardeur. Donc elle se cache. En fait, elle se grime en garçon.
La légende dit qu'elle avait aussi le maillot du DFCO. Hein. Mais bon,
Oui, le maillot perdu du DFCO. Donc elle s'est cachée dans les buissons près du départ.
Finesse.
Incroyable.
Après le coup de feu, elle attend justement que la première salve de coureurs démarre. Donc elle laisse passer la meute, puis saute dans la course. Donc le témoignage de Diane Chapman, présidente du collège de Wesley, qui s'aperçoit en fait qu'il y a une rumeur qui commence en fait à se diffuser pendant le marathon de Boston. Et on est en train d'expliquer qu'une femme serait en train de courir le marathon.
C'est ouf.
Alors pendant un certain temps, il y a des gens qui commencent à hurler un petit peu et ils commencent à essayer de lui demander de quitter la course. Donc des gens qui sont plutôt réactionnaires. Et une autre partie de la foule, donc, qui commence à être plutôt excitée et encouragée, entre guillemets, ce geste, et commence à la pousser. Et tout d'un coup, à ce moment-là, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, une femme est en train de courir. On laisse un petit peu l'événement, entre guillemets, des gens qui essaient de l'arrêter, des gens carrément qui essaient de l'agresser. Donc au moment où Gib atteint la ligne d'arrivée à Boston, le gouverneur de Massachusetts, John Volpe, à l'époque, était là pour lui serrer la main. Donc,
quand
pas
même.
Fou. Il ouais. commence à voir un peu quand même qu'il y a un petit mouvement populaire autour de ça. Donc, un bon politicien, il va lui serrer la main. Elle termine
bien joué.
En 3 heures, 21 minutes et 40 secondes devant les 2/3 du peloton. Donc, c'est pas du tout une contre-performance, c'est pas ouais. juste un symbole. Donc, elle est vraiment performante. Le lendemain matin, son exploit fait la une des journaux de Record America où le titre était le suivant. Je vous le fais en français et c'est la première fille du Upbride à courir le marathon. On a un autre titre qui dit « Les femmes peuvent courir le marathon » en l'affirmant. Ouais. Donc Roberta, donc Bobby, la coureuse pourrait révolutionner le légendaire marathon de Boston et d'ailleurs toutes les autres courses de longue distance organisées dans le pays. Parce que en fait, ça commence un peu comme une traînée de poudre à expliquer que c'est une performance qui est à la hauteur des femmes, largement. Et ça pourrait peut-être, en fait, tout simplement créer, en fait,
un précédent,
voilà. Et dans ces cas-là, en fait, on a un responsable, un haut dignitaire qui dit si on ne peut pas contourner la règle, il faut tout simplement modifier la règle. Voilà. Donc, il prévoit personnellement, en fait, de décider, en fait, que cette performance est à noter comme une raison de modifier le règlement. Mmh. Et on décide, quelques années plus tard, de remettre en fait des récompenses de circonstances à Bobby pour pouvoir en fait valider entre guillemets sa performance et son chronomètre pour pouvoir tout simplement l'inscrire dans l'association d'athlétisme des États-Unis.
C'est assez fascinant comme histoire. Il n'y a jamais eu de film là-dessus, parce que ça pourrait faire un film, non ?
C'est assez dingue, mais non, j'ai fait ma petite recherche. Il n'y a pas de film, pas de fiction, et il y a des documentaires qui ont été faits.
Alors, et d'ailleurs, c'est pas une histoire vraie.
Non, bah, exactement. On rappelle quand même que tout ce que raconte Younes, c'est une fiction. C'est complètement... Ça n'a jamais existé. Les femmes sont interdites de marathon.
On rappelle aussi que de toute façon, Younes, c'est une fiction. Hein.
Non, il y a un documentaire qui date des années 80 qui a été fait à la suite d'un article de Sport Illustrated par HBO. Et effectivement, je n'ai pas encore mis la main dessus, mais je vous invite à faire une recherche de votre côté.
Ouais, ça a l'air. Ouais.
Et on vous le mettra peut-être sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Donc voilà, c'était mon anti-hopping.
Bah, merci.
Bravo. Eh ben, merci. Bravo. C'était super intéressant.
Merci.
Quant à nous, est-ce qu'on a quelque chose à dire ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Oui, à propos des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, vous connaissez.
Bonne année.
On commence.
Année, c'est vrai qu'on l'a pas dit.
C'est vrai qu'on l'a pas dit. Bonne année, la santé, surtout. Oui.
Ça... Tu as quelque chose d'autre à dire, Olivier ?
Pour finir sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis très, c'est mon cheval de bataille.
Tout à fait.
Mon fils, ma bataille.
Le fruit de tes
entrailles et qu'elle s'en aille. Voilà. On commence à prendre des thèmes que vous pouvez nous que vous nous donnez, donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles hein, comme chez les copains de 2H2P et à mettre un thème, pourquoi pas. On y réfléchit, on nous parle beaucoup de NBA, on va y venir, etc.
Oh oui.
Et pour conclure, parce que je suis très fière de l'annoncer,
tu es enceinte.
Oui, tout à fait. Que vas-tu nous dire, Sarah?
Oui, Sarah.
Je ne procréais pas des enfants, mais je procréer des podcasts.
Oui, ouais.
Et il arrive. Normalement, à l'heure où cet épisode est diffusé, au moins le premier épisode est déjà en ligne, donc d'un nouveau podcast de Fréquence Moderne
qui s'appelle
20 minutes avant la fin du monde, que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Antoine, mais qui n'est pas Antoine de 2HDP, un autre Antoine.
Un vrai ami.
Donc un vrai cette fois-ci. Oui. Et donc c'est un format, comme son nom l'indique, de 20 minutes pour vous parler d'écologie sur le ton habituel de Fréquence Moderne, donc avec légèreté et humour sur des sujets qui sont pas très légers et pas très drôles. Et je vous invite à l'écouter et à me dire comment vous trouvez ça. Dites pas si vous aimez pas du tout, sinon je serais trop triste.
Moi j'ai écouté, j'ai trouvé ça vachement bien.
C'est gentil. Bien,
ouais. Moi aussi.
J'ai pas encore écouté.
Moi c'est déjà mon podcast préféré.
Voilà. Et sinon, je vous embrasse. Et puis, merci beaucoup d'avoir été là, les copains.
Gros bisous.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous.
Et puis,
à
la semaine prochaine. Ah non, au mois prochain.
Au mois prochain.
À demain. With Don figures, real niggas, fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded. Open fire, now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes. Open and shut like doors. Is you a friend or foe?